Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de quel texte j'ai prêché la dernière fois. La dernière fois, c'était, je crois, il y a 3 semaines, si je ne me trompe pas. On va continuer la suite. Et je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans le livre des Colossiens. Le titre de mon message, c'est simplement une vie centrée sur Christ. C'est la suite. C'était déjà le titre de la dernière fois, hein, Colossiens 3. Et peut-être pour ceux qui n'étaient pas là ou pour ceux qui ne se rappellent plus d'un dimanche à l'autre, comme moi souvent j'oublie. Hein. Et Pierre dit dans son épître, Paul devait souvent rappeler les mêmes choses. Hein. Juste nous rappeler qu'on a Colossiens, je vous laisse le temps de le chercher, de trouver. Rococo, Gaéfico. Voilà. Colossiens chapitre 3. Je vais lire les 8 premiers versets de nouveau. Je lis dans la seconde 21. Si donc vous êtes ressuscité en Christ, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite du Dieu, de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu l'amour et votre vie est cachée en Christ, avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Jusqu'à là. Alors, je rappelle juste hein, par rapport à l'épître aux Colossiens, les 2 premiers chapitres, c'est des enseignements doctrinaux que Paul donne par rapport à l'œuvre parfaite de Christ. Et je ne sais pas si vous avez rappelé, hein, sur 94 versets qu'on trouve dans l'Épître aux Colossiens, sur les 4 chapitres, hein, il y en a combien qui parlent de Christ directement ou indirectement, rappelez-vous? 79 parlent directement ou indirectement de Christ. Et plus de 20 fois dans les 2 premiers chapitres, Paul nous parle de l'œuvre parfaite de Christ. On a vu ça la dernière fois. L'œuvre de Christ est pleinement suffisante pour notre salut. Christ est le créateur de toutes choses, chapitre 1. Hein. Christ est l'unique sauveur, chapitre 1. Christ est Dieu venu sur terre, chapitre 2. Christ est la tête de l'Église. C'est lui le chef, la tête de l'Église. Et au chapitre 2, Paul encourage, suite à tout ce que nous avons à Christ, hein, il dit au verset 6, marchez en Christ, chapitre 2, verset 6. Enracinez-vous et fondez votre vie en Christ. Affermissez votre foi en Christ. Et ici, au chapitre 3, Paul continue. Recherchez les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut. Nous avons vu hein, que par la foi, nous sommes déjà maintenant assis avec Christ dans les lieux célestes. Hein. Nous sommes avec Christ, chapitre 3, verset 1. Hein. Vous êtes avec Christ. De ce fait, parce que nous sommes en Christ, notre vie doit aussi ressembler à celle de Christ. Et c'est la suite, les versets 5 et suivants. Et on peut dire que Paul passe ici des versets 1 à 4 Paul nous dit qu'en Christ, nous sommes justifiés. Nous sommes déjà assis avec lui dans le ciel. Mais en même temps, parce que nous sommes justifiés, Paul nous encourage à rechercher la sanctification. Versets 5 et suivants. Alors juste peut-être un petit rappel, hein. Au moment de notre conversion, quand nous avons accepté Christ dans notre cœur, Dieu nous voit juste. Dieu nous voit saint. Dès ce moment, au moment de la conversion, à travers le sang de Christ et l'œuvre de Christ, Dieu nous voit juste et saint. Et cet événement de la justification a lieu une fois pour toutes, à un moment donné dans notre vie. Peut-être qu'on ne se rappelle pas toujours à quel moment ça a lieu. Parce qu'on ne se rappelle pas toujours à quel moment on s'est converti, on s'est tourné vers le Seigneur, on a confessé nos péchés. Moment où le Saint-Esprit entre dans notre vie et nous donne une nouvelle orientation, une nouvelle direction. Une nouvelle vie en Christ. Et ce moment, c'est le point de départ de notre justification. Par la foi en Christ, nous sommes justifiés. Et c'est à travers de la justification que nous entrons dans la sanctification. Ce désir, et tu en as parlé ce matin, hein, Rav, ce désir de ressembler à Christ de plus en plus. Ce désir de transformation qui dure toute une vie. Jusqu'à ce que Christ revienne nous chercher. C'est la mise en pratique de ce que nous avons déjà reçu en Christ, tout ce que nous avons en Christ au moment de notre conversion. C'est la mise en pratique de ce que nous savons. Quelqu'un dit, c'est la sanctification, c'est ce que nous sommes déjà, ce que nous avons déjà reçu en Christ. Rappelez-vous, Paul s'adresse à qui ? Colossiens chapitre 1, verset 2, il s'adresse aux saints qui sont à Colosse. Il s'adresse à des chrétiens et de nouveau qui sont déjà saints. Et quand vous lisez les différents épîtres, la plupart des épîtres, Paul, s'adressent aux saints qui sont à Colosse. C'est pas que nous sommes déjà saints dans notre comportement, mais Dieu nous voit saints à travers Christ. Nous sommes déclarés saints à cause de la seule œuvre de Jésus-Christ, son sang versé à la croix pour nous. Mais parce que nous sommes déjà saints, nous devons devenir saints. C'est simple, non? Devenir saints dans notre comportement de tous les jours. Et je rappelle ici que la sanctification n'est pas quelque chose qui s'obtient par les œuvres. Ce n'est pas quelque chose qui s'obtient par nous-mêmes. Ce n'est pas quelque chose qui s'obtient par le jeûne, par le pèlerinage ou par plein d'autres choses. Non. Toutes ces choses sont bonnes, mais elles ne nous changent pas, elles ne nous transforment pas. Seul le sang de Christ nous transforme et nous change. Et seul le sang de Christ nous ouvre la porte pour le ciel. Nous sommes justifiés, sanctifiés par le sang de Christ. Mais ce changement de vie qui s'est produit au moment de la conversation, hein, conversion, merci, doit se voir aussi dans notre vie, par la sanctification. Le moment où Dieu nous a justifiés par Christ doit se voir. Et la sanctification révèle notre justification. S'il n'y a pas sanctification, on peut se demander, est-ce qu'il y a eu justification? Mais comment se fait-il que nous péchons encore en tant qu'enfants de Dieu? En tout cas, moi je ne sais pas. Hein? Mais parce que le péché est attirant. Parce qu'on aime le péché. Et le péché nous propose toujours quelque chose de meilleur que ce que nous avons en Jésus-Christ. Et parce que le péché habite encore en moi, dans mon corps charnel, malheureusement. Pourtant, Paul dit au Colossiens 2, verset 20, il dit, « Nous sommes morts au péché. » Et dans le chapitre 3, verset 3, dont on l'a vu la dernière fois, « En effet, vous avez connu l'amour. » Christ n'est pas seulement mort pour nos péchés sur la croix, mais il a aussi vaincu le péché par sa mort sur la croix. Romains 6 développe, hein, on ne va pas voir ça ce matin, mais peut-être pour ceux qui prennent des notes, Romains 6, 14, 15 développe cette nouvelle vie que nous avons en Christ. Je laisserai Callaghan développer cela dans les études. MacArthur Jones disait dans son commentaire, « Nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, morts au châtiment du péché, mais le pouvoir du péché est encore grand et notre chair est faible. » Nous sommes morts au châtiment du péché, mais le pouvoir du péché est encore grand dans notre vie. Mais nous avons, par la puissance du Saint-Esprit, en nous, au moment de la conversion, nous avons la force de résister au péché et de plus nous laisser entraîner par le péché. Romains 8, 13. Si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. Par l'Esprit Saint, pas par nous-mêmes. Et ça me conduit à la suite de Colossiens 3, les versets 5 à 8, et je vais les relire. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Trois versets que je vous propose de voir ce matin ensemble. Paul encourage les Colossiens et nous encourage avec les Colossiens à faire mourir notre nature terrestre, à notre ancienne manière de vivre. Parce que nous sommes en Christ. Ici, le mot « nourrir » veut dire « nécrove » en grec, ce qui signifie littéralement « tuer ». Faites tuer. D'autres versions traduisent par « faites asphyxier », « faites nécroser ». Nous devons tout faire pour que les péchés dans notre corps charnel, mortel, ne reprennent plus le dessus. Nous devons les empêcher de s'exprimer à nouveau. Pourtant, Paul dit, et je l'ai lu avant, hein, « Vous êtes morts en Christ. » Est-ce que ça contredit? Non. Mais parce que nous sommes morts en Christ, nous devons faire mourir. Parce que Dieu nous voit saints, nous devons marcher dans la sainteté. C'est le « déjà, pas encore ». Vous êtes déclarés saints par Jésus-Christ. Mais aussi, conduisez-vous ainsi. Il le dit aux Corinthiens, chapitre 1. Richard Baxter, prédicateur du XVIIe siècle, dit ceci. Faites au péché ce qu'il vous ferait. Ne l'épargnez pas, car il ne vous épargnera pas. C'est votre meurtrier et le meurtrier du monde. Traitez-le donc comme on devrait traiter un meurtrier. Tuez-le avant qu'il ne vous tue. Et même s'il vous entraîne à la mort, comme il l'a fait dans votre tête, il ne pourra pas vous y maintenir. Et Paul dénonce ici, au chapitre 3, verset 5, une liste de vices sexuels. Vous êtes d'accord avec moi que nous sommes dans une société où la sexualité est de plus en plus présente et malheureusement de plus en plus déviante. Mais c'était déjà le cas au temps de Paul. Lors de fouilles qu'on a fait à Thessalonique, on a trouvé des mosaïques pornographiques extérieures. Les gens à l'époque de Paul vivaient déjà dans la même ambiance saturée d'immoralité sexuelle qu'aujourd'hui. L'Ecclésiaste dirait, rien de nouveau sous le soleil, hein. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Mon cœur est tortueux par-dessus tout. Et c'est pour ça que Paul, ici, nous donne une liste de vices que j'aimerais voir avec vous ce matin. Il parle premièrement de l'inconduite, traduit en grec « pornéa », qui veut dire « péché sexuel » ou « une vie immorale », Darby traduit « fornication ». Paul dénonce ici clairement tout rapport sexuel qui n'a pas lieu dans le cadre unique du couple marié comme Dieu l'a prévu. Tout rapport sexuel en dehors du mariage d'un couple homme et femme est condamné par Dieu. Et nous devons de même le condamner et le rejeter absolument. Paul continue sa liste et il parle deuxièmement de l'impureté. Une vie impure, une vie de souillure. En grec, c'est akartasia. Akartasia, excusez la prononciation, hein. Ça veut dire indécence, souillure. Et ici, Paul élargit le champ de pornéa pour évoquer le domaine des pensées, car le mot akartasia va au-delà de l'action aux pensées mauvaises. Rappelez-vous ce que Jésus dit à ses disciples. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère dans son cœur. Paul continue et il dénonce les passions. Ce mot est traduit par « pathos » en grec, hein, les passions incontrôlées, les affections déréglées, traduit Darby, la luxure, les obsessions, les pulsions déréglées, c'est une intention supérieure à l'impureté. C'est encore un pas plus loin. Quatrièmement, Paul aborde les mauvais désirs. Les désirs peuvent être des bonnes choses, mais ici Paul dénonce les mauvais désirs. Les désirs négatifs, des choses négatives, la mauvaise convoitise. John Piper, dans son livre « Combattre l'incrédulité », je ne sais pas si quelqu'un l'a lu ou le connaît, je vous encourage de le lire. Supposons qu'une image sexuelle revient à l'esprit et me fait signe de la suivre. Toute la force de ce type de tentative tient dans sa capacité à me persuader que je serai plus heureux en suivant son appel. Le pouvoir de toute tentation réside dans son appel à un plus grand bonheur. Quand c'est la foi qui occupe la première place dans mon cœur, je trouve le contentement et ma joie en Christ et ses promesses. Je peux, avec l'aide de Christ, briser le pouvoir du péché dans ma vie. Paul Paul a commencé sa liste de vices par les péchés les plus grossiers, les péchés sexuels, et il termine sa liste par le péché beaucoup plus subtil, l'avarice. Mais un péché qui est souvent pas moins invisible. La cupidité, la convoitise, la soif de posséder toujours plus. Je ne crois pas que Dieu est contre le fait qu'on ait des choses. Mais ici, c'est la soif de posséder toujours plus et de le posséder pour soi-même. Cupidité ici est traduite par pléonexia. Je fais pas du grec, hein, je vous rassure, c'est les commentaires que j'ai lus. C'est le désir insatiable d'avoir toujours plus et d'avoir ce que Dieu interdit. C'est le désir égoïste de notre cœur, placé avant le désir de plaire à Dieu et de lui obéir. Et cela peut aller jusqu'à devenir une idolâtrie. La convoitise est la racine de tous les maux, de tous les péchés. William Barclay disait: la convoitise est un péché d'une très grande portée. Si c'est le désir d'argent, il peut nous mener au vol. Si c'est le désir de prestige, il peut nous mener aux mauvaises ambitions. Si c'est le désir du pouvoir, il peut nous mener à la tyrannie sadique. Et si c'est le désir d'une personne, il peut nous mener au péché sexuel. Paul termine ici sa première liste, hein, que vous venez de voir, surtout en lien avec des péchés sexuels, en lien avec notre corps. Il continuera sa deuxième liste par rapport à des péchés qui sont plutôt en lien avec notre relation entre nous dans l'Église, versets 8 et suivants. Ce sera mon prochain message. Mais vous me direz peut-être ce matin, mais moi, je n'ai jamais commis de péché sexuel. Moi, je n'ai jamais commis toutes ces vices. Amen. Soyez reconnaissants envers le Seigneur. Mais Paul dit quand même ici: et je me pose la question, est-ce que nous n'avons jamais eu de mauvaises pensées envers quelqu'un? N'avons-nous jamais convoité? Moi le premier. N'ai jamais désiré posséder plus que ce que Dieu m'a déjà donné. Et Paul dit au verset 7: vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Il ne dit pas peut-être, il dit vous marchiez, je marchais dans ces péchés autrefois. Au chapitre 2, il dit vous êtes morts à cause de vos fautes. Et rappelez-vous ce que Paul dit aux Éphésiens, chapitre 2. Vous étiez autrefois morts par vos fautes dans lesquelles vous marchiez. Éphésiens 2, les versets 1 et suivants, pour ceux qui notent. Chapitre 2, 3, Éphésiens. Nous nous conduisions selon nos pulsions charnelles. Nous exécutions la volonté de notre chair et de nos pensées. Verset 5. Nous étions morts par nos fautes. Verset 12. Autrefois, nous étions sans Christ. Nous étions des étrangers qui n'avons pas droit aux promesses de Dieu. Nous étions sans Dieu et sans espérance. Nous étions tout simplement loin de Dieu. Au chapitre 2, verset 3, Éphésiens, Paul dit, nous étions des enfants de colère. Nous méritions la colère de Dieu. pense une des plus grandes armes contre le péché en nous, c'est de réaliser que nous étions des pécheurs avant et que Christ nous a fait grâce. Nous méritions rien. Je méritais rien du tout. La seule chose que je méritais, c'est la colère de Dieu. Et ça nous garde dans l'humilité. Et le péché est tellement grave aux yeux de Dieu que ceux qui refusent, que ceux qui continuent à s'opposer à Dieu et à sa vérité, Paul dit ici, attireront la colère de Dieu. Verset 6. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Quand avons-nous entendu la dernière fois parler de la colère de Dieu? Quand on prend une concordance biblique, on peut constater qu'il y a dans l'Écriture plus de références à la colère de Dieu, à la fureur de Dieu, à son courroux, à la destruction qui vient de lui, au feu dévorant de Dieu, plus de références que son amour et sa tendresse. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, la colère est associée à une réaction hystérique, une déchaîne de violence, de fureur, une absence de maîtrise de soi. Et ça me rappelle, quand j'ai préparé le message, ça me rappelle ce que j'ai vécu avec mon père et mon grand-père. C'était des hommes colériques, incroyables. Malheureusement, j'ai hérité de cette colère. Et on voit, une de nos filles l'a hérité malheureusement aussi. C'est incroyable, hein? Mais Dieu peut briser, heureusement. Mais combien de fois j'ai dû demander pardon à ma femme à cause de ma colère? Nous évitons de parler de la colère de Dieu car elle nous rappelle toutes ces images défaillantes, ces images qui réveillent en nous des blessures passées si on a été victime d'une telle colère. Mais on ne peut pas associer la colère de Dieu à ces images, heureusement. La colère de Dieu fait partie de ses attributs, comme l'amour, comme la grâce, comme la bonté, comme le pardon. Et la colère de Dieu est toujours sainte. Et elle est toujours justifiée. Ma colère n'est jamais sainte. Et encore moins justifiée. Et c'est pour ça que Paul dit, la suite, verset 8, « Renoncez à votre colère. » La Bible insiste beaucoup sur le fait qu'autant Dieu est bon pour ceux qui se confient en lui, autant il se montre terrible pour ceux qui se détournent volontairement de lui. Pour ceux qui notent, lisez Nahum 1, versets 2 à 8. L'épître de Romains qu'on est en train d'étudier est remplie de versets sur la colère de Dieu. Thessaloniciens, il en parle. Apocalypse, il en parle. Quelqu'un disait, la colère de Dieu est une des perfections du caractère divin sur laquelle il est nécessaire que nous méditions souvent, afin que nous soyons pleinement pénétrés de la haine que Dieu éprouve envers le péché. Car nous avons toujours tendance à trouver des excuses à notre péché. J'ai toujours tendance à trouver des excuses à mon péché. Et Paul nous rappelle qu'un jour, Christ apparaîtra. Quand Christ apparaîtra dans sa gloire, chapitre 3, verset 1. Mais ce jour, la colère de Dieu apparaîtra aussi. Et ce jour, jour où le ciel et la terre trembleront, ce jour sera terrible. La colère de Dieu éclatera envers tous ceux et celles qui rejettent délibérément la vérité et qui se sont volontairement détournés de Dieu pour vivre dans leur péché. Mais pour nous, enfants de Dieu, nous qui sommes morts à Christ par la nouvelle naissance, nous qui avons reçu Christ dans notre cœur, nous sommes délivrés de la colère à venir. Jésus-Christ nous délivre de la colère à venir. 1 Thessaloniciens 1:10, Romains 5:9. Un auteur disait ceci: entre nous pécheurs et l'orage menaçant de la colère se dresse la croix du Seigneur Jésus. Si nous appartenons à Christ par la foi, nous sommes justifiés par sa mort sur la croix et son sang versé et la colère ne nous atteindront plus. La colère ne nous atteindra plus jamais, ni dans ce monde, ni dans l'autre, car Jésus nous délivre de la colère à venir. Et je pense et je crois aussi, et tu l'as dit, Gilles, je crois ce matin dans ta prière, que nous sommes encore dans un temps de grâce à cause de la bonté de Dieu, à cause de sa miséricorde. Dieu patiente encore dans sa colère. Psaume 103. L'Éternel fait grâce et il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et riche en bonté. Mais par ton endurcissement et ton refus de te repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour où Dieu révélera sa colère et son jugement. Romains 2. J'arrive à la fin. Enfin, je conclue. N'oublions jamais que nous méritons la colère de Dieu. Je méritais la colère de Dieu. Que Dieu, dans son amour pour nous, a détourné sa colère sur son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre paratonnerre contre la colère de Dieu. Jésus-Christ, grâce à son sang et son œuvre parfaite à la croix, nous délivre de la colère. Nous n'avons pas besoin de craindre la colère de Dieu. Mais en même temps, ne prenons pas à la légère le péché, mais condamnons-le par la puissance du Saint-Esprit en nous. Paul, au chapitre 3, verset 3, il dit: votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Je pense que c'est une clé. Si ma vie est cachée en Christ, avec Dieu, cette vie que personne ne voit, mais que Dieu voit, cette vie avec Christ me donne la force de résister au péché et de continuer à le servir et à marcher avec lui et derrière lui. Et je termine par Hébreux 12, où l'auteur nous dit: rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance en regardant et en gardant les yeux fixés sur Jésus, afin de pouvoir résister dans notre combat contre le péché et de progresser dans la sainteté à Christ. Hébreux 12, 1, 2, 4 et 14. Amen.